Alors, sans tarder, Marion Lenoble et Alain Routiot pour ReFashion. Et puis, Paul Guinard qui représente la marque Nolt. Et Isabelle nous présentera à l'issue de la table ronde un peu plus en détail le projet. Donc voilà, on va avoir 10 minutes de moins, mais ce n'est pas grave, vous aurez quand même le temps. Bonjour. Ah oui, il faut une chaise. Une chaise en plus, c'est bon? D'accord. Merci à vous trois. Donc, ReFashion, c'est l'éco-organisme de la filière textile, justement. Donc, ça va répondre en partie aux questions qui ont été évoquées précédemment sur comment fonctionne la filière textile, comment fonctionne le recyclage aussi dans la filière textile, et peut-être aussi qu'est-ce qu'on demande aux marques et aux enseignes, comment tout ça fonctionne. Donc, pour présenter ce système, donc Marion Lenoble et Adèle Routiot, je vous laisse prendre la parole pour un petit quart d'heure.
Bonjour à tous.
J'ai pas l'impression.
Pardon, bonjour à tous. Merci de nous accueillir au triathlon de la mode éthique. Alors, on va passer une petite demi-heure ensemble, une demi-heure pendant laquelle nous aimerions vous parler de ReFashion, qui est l'éco-organisme de la filière textile pour lequel Adèle et moi. Nous travaillons, et donc ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est donc de vous parler de cet éco-organisme, nos missions, nos valeurs, et puis on va s'intéresser à regarder les grands flux de la filière textile, parce que c'est toujours intéressant de se rendre compte de ce que la filière textile donne en chiffres. Et puis, en dernière partie, je laisserai la parole à Adèle, qui vous parlera d'éco-conception, qui est donc l'un des piliers majeurs de l'économie circulaire. Alors, ReFashion, qui sommes-nous ? Eh bien donc, nous sommes une société privée, à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics. On a été créé en 2008 en réponse à la loi REP, qui est la responsabilité élargie du producteur. Et donc, nous assurons, pour le compte de près de 5000 marques, des marques de vêtements, de textiles, de linge de maison, nous assurons pour eux la prévention et la gestion de la fin de vie de leurs produits. On appartient aux marques, on est représenté par 32 marques que vous voyez apparaître en haut à droite de l'écran, donc des marques de textiles, de linge de maison et de chaussures. Et puis, on est également représenté par des organisations professionnelles. Mince, j'ai tout cassé. Alors. Ouais, pas de problème, je vais faire vite. Ah ben voilà, c'était la petite vidéo qui arrivait. Alors, vous l'aurez compris, ReFashion, c'est avant tout un projet collectif. Notre vision, c'est de tendre vers une industrie 100% circulaire. Notre mission, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière textile pour éco-concevoir, pour la réutilisation et pour le recyclage des textiles et chaussures. Et on a trois grandes priorités. En un, la fabrication. En deux, la consommation responsable. Et en trois, le fait de valoriser la fin de vie des textiles. Alors, pourquoi c'est important ces trois priorités? Parce qu'elles font partie de l'économie circulaire. On en parle beaucoup de l'économie circulaire, mais l'économie circulaire, c'est l'idée d'optimiser les ressources tout au long du cycle de vie du produit. Donc, d'optimiser ses ressources et aussi de minimiser son impact environnemental. C'est pourquoi ReFashion œuvre à repenser la fabrication, et Adèle en parlera tout à l'heure bien mieux que moi, mais l'idée c'est donc de d'éco-concevoir, et donc quand les textiles sont mis sur le marché, hein, dans les magasins, de les penser en amont pour qu'elles soient des futures ressources potentielles. La priorité numéro 2, et j'en parlais tout à l'heure, je suis un peu en retard sur mes slides, c'est normal que vous ne compreniez pas. La deuxième idée, c'est de repenser la consommation. Effectivement, l'idée pour ReFashion, c'est d'informer et de sensibiliser les citoyens. Vous l'avez peut-être vu passer, on a organisé une grande campagne nationale hashtag RRR. Les 4 R, donc, R pour réparer, réutiliser, recycler et réduire son impact environnemental. Et la troisième des priorités pour ReFashion, c'est donc de revaloriser la fin de vie des textiles usagés. Donc il y a deux manières de les revaloriser. La première, c'est par la réutilisation. La réutilisation, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir remettre dans le circuit des vêtements qui sont portables, hein, donc de remettre dans le circuit des vêtements tout à fait... portable. Et puis la deuxième façon, c'est de recycler. Une fois que les vêtements ne sont plus portables, eh bien, on va pouvoir les transformer pour en faire de nouvelles matières premières qui créeront de nouveaux produits. Maintenant qu'on a vu un petit peu qui était ReFashion et nos missions, ce que je vous propose, c'est de regarder les grands flux de la filière textile. Je vais aller assez vite parce que le temps nous est un peu compté. Mais ce qui est important de se dire, c'est que sur le marché en France, chaque année, il y a près de 517 000 tonnes de produits textiles qui sont mis sur le marché. Parmi ces 517 000 tonnes, on en a environ 204 000 qui sont collectés. Collectés, ça veut dire quoi? C'est lorsque vous, moi, nous déposons nos textiles dans des bornes prévues à cet effet sur la voie publique ou bien dans des points de collecte événementiels ou bien dans des points associatifs type Emmaüs, la Croix-Rouge. Et donc, sur cette partie qui est collectée, on va se dire qu'il y en a environ 2/3, donc 156 000 tonnes, qui vont être triées. Il y a 64 centres de tri en France et en Europe qui s'occupent de trier cette partie des textiles. Et une fois que tous ces textiles seront triés, eh bien, et là j'espère que je ne vais pas tous vous endormir, mais l'idée c'est qu'après le tri, la grande majorité, donc 56%, va être réutilisée. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de le réutiliser, c'est de le remettre dans un cycle de deuxième vie, dans les friperies par exemple, et puis il y en aura 33% qui vont être recyclés, et puis le reste sera valorisé en énergie. Et finalement, il y en a une toute petite partie, très infime, soit 0,4%, qui sera totalement éliminée. Mais bon, l'idée, c'est de revaloriser l'ensemble des textiles qui sont triés et collectés. Et je vous propose une petite vidéo qui va être un peu plus parlante sur la deuxième vie des textiles usagés, une fois qu'elles ont été déposées dans une borne prévue à cet effet. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, ça va arriver, me dit-on dans l'oreillette. Ou pas. Si, en régie, je crois qu'il lance.
ReFashion, éco-organisme de la filière textile, présente les mille et une vies de vos vêtements, de votre linge de maison, de vos chaussures. Oui, tous vos textiles et chaussures ont de l'avenir. 1 kg de textiles collectés, c'est 25 kg de CO2 en moins dans l'atmosphère. Alors oui, donnez sans hésiter. Les jeans trop petits, les chaussures abîmées, les draps déchirés ou inutilisés, et tous les vêtements que vous ne portez plus dans votre cœur, ni tout court. En les déposant dans l'un des multiples points d'apport à votre disposition, un conteneur dans la rue, auprès d'une antenne d'association, dans un magasin équipé ou encore lors d'une collecte ponctuelle, vous faites le choix de leur offrir une deuxième vie. Ce signe vous indique que les articles confiés ici seront traités de façon professionnelle, grâce à une traçabilité complète des flux. Comment ? De fil en aiguille, une chaîne humaine va se former et va prendre leur avenir en main. Plus précisément, plus de la moitié de vos dons, ceux en bon état, seront revendus en boutique solidaire, de seconde main, en France ou dans le monde. On réutilise et ça rend bien service. La part non réutilisable, environ un tiers, servira à fabriquer de nouvelles matières premières. Elles pourront ainsi servir de fil pour de nouveaux vêtements, de matières non tissées isolantes pour le bâtiment ou l'automobile, ou bien même devenir un tout nouvel objet comme une raquette de ping-pong, qui sait. Enfin, la partie non réutilisable et non recyclable restante deviendra, après traitement, un combustible alternatif utilisé en énergie, le CSR. Au final, seulement 0,5% sera éliminé sans aucune valorisation. Alors oui, votre geste peut aider l'environnement à mieux se porter. De la même façon que le pull trop petit de Lucie peut devenir la jolie trouvaille d'Amélie, et que le jean troué de Roger peut se transformer en isolant thermique chez Monique, vos vêtements peuvent permettre aux ressources d'être économisées. Rien que pour cela, la planète vous dit merci, et vos placards aussi. Ensemble, agissons pour un monde qui transforme plus qu'il ne détruit.
Donc je reprends la suite. Bonjour à tous, merci Marion pour cette première introduction. Alors je vais essayer de m'en sortir aussi, c'est pas mal. Marion a cité le terme de l'éco-conception. Pourquoi on est content de vous en parler aujourd'hui? C'est parce qu'on a parlé de plein de termes, de recyclage, de réutilisation, et on a eu des très beaux exemples sur la conférence juste d'avant. Mais tout ça, en fait, ça se réfléchit en amont. Ça se réfléchit dès la fabrication d'un produit, dès sa conception, et c'est ce qu'on appelle, du coup, via le terme de l'éco-conception. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que c'est et quelle est sa définition? Ça va être comment on peut réfléchir dès la conception d'un produit pour y intégrer tous les attributs environnementaux et en prendre en compte l'aspect environnemental à chaque étape du cycle de vie. Donc ça va être, si je mets le petit schéma, donc dès la conception, réfléchir à l'extraction des matières premières, à comment elles vont être transformées, fabriquer, confectionner, comment après derrière on va les transporter, comment l'utilisateur il va s'en saisir, il va l'utiliser, il va l'entretenir, et puis après derrière ça va arriver en fin de vie, donc qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir le recycler, est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser. Donc l'éco-conception, ça consiste en fait tout simplement à prendre toutes ces considérations dès le croquis d'un jean, d'une chaussure, d'un t-shirt, etc. Comment un concepteur il peut se poser toutes ces questions pour au final réduire l'impact sur l'environnement. Donc c'est une priorité pour eFashion, l'éco-conception, puisque ça va permettre au final de réduire la quantité de déchets. Si on réfléchit suffisamment quand on conçoit un vêtement pour qu'il soit plus durable, donc qu'il va être conservé plus longtemps par le consommateur, il va être gardé dans son placard plus longtemps, on va avoir la possibilité de le réparer, on va avoir la possibilité derrière de le recycler, parce qu'à un moment ça va quand même devenir un déchet, même si on le garde le plus longtemps possible. S'il est suffisamment pensé en amont, on améliore la durabilité et la recyclabilité d'un produit. Donc ça a de nombreux avantages d'éco-concevoir. Le premier, le plus implicite, c'est donc de réduire l'impact sur l'environnement, de minimiser l'impact environnemental. Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices d'améliorer son image de marque et de répondre aux attentes des utilisateurs. On a cité la loi AGEC, donc le cadre légal dans lequel les mises en marché se font est de plus en plus restreint. Et on ne peut plus mettre sur le marché ce qu'on veut. Et ça va aussi avoir des bénéfices économiques. L'éco-conception, c'est aussi rentable. Hein. C'est pas qu'une démarche, écologique pour quelques érudits de l'éco-conception. Hein. C'est aussi une démarche qui est rentable. Donc c'est une démarche qu'on appelle qui est multi-étape. Donc j'ai déjà dit, l'idée c'est de prendre en compte tout le cycle de vie, mais pour le détailler un petit peu plus, ça va être par exemple venir regarder l'agriculture du coton, l'élevage du mouton pour faire de la laine, après comment on va venir transformer cette matière première pour en faire un fil, puis pour en faire un tissu ou un tricot, comment on va venir à l'étape de la teinture limiter les intrants chimiques et limiter l'utilisation de l'eau. Derrière, quand on va venir le confectionner, comment on fait pour limiter les chutes de production. Pendant l'étape d'entretien, est-ce qu'on va venir laver moins souvent son jean? On n'a peut-être pas besoin de le laver à chaque fois qu'on le porte, par exemple. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le mettre au sèche-linge ou est-ce que je peux m'en servir autrement? Donc l'idée, c'est de pouvoir concevoir ces vêtements en ayant connaissance de tout ce cycle de vie. Voilà pourquoi c'est une démarche multi-étape. C'est aussi une démarche qu'on appelle Oui, ça a marché. Multicritères. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment visible, mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'à chacune des étapes, il y a des petits symboles là, qui représentent des impacts environnementaux. À chaque étape, on va consommer de l'énergie, on va utiliser de l'eau, on va occuper des sols. Et tout ça, ça a un impact sur l'environnement et ça a aussi un impact sociétal et social hein, sur la santé humaine également. Donc les principaux impacts environnementaux, ceux qu'on entend le plus, ceux qu'en tant que citoyen et consommateur, vous devez aussi certainement entendre, ça va être la consommation d'eau, la pollution des eaux, la pollution des sols, etc. Et peut-être celui qu'on entend encore le plus, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc le fameux CO2. Alors j'ai une petite question pour vous. Alors à votre avis, sur tout le cycle de vie d'un produit textile et chaussures, si on vient bien regarder chacune des étapes qui composent le cycle de vie, donc qu'on a regardé ensemble, laquelle est la plus importante en termes d'émissions de CO2, donc sur les gaz à effet de serre? Donc on va faire un vote à main levée. Je vais d'abord vous proposer peut-être les trois options que je vous propose. La première, c'est est-ce que c'est à l'étape de matière première qu'on a le plus d'émissions de CO2? Donc matière première, ça va être l'agriculture du coton, l'élevage des moutons pour la laine par exemple. Est-ce que c'est à l'étape de transport où aujourd'hui on va pourquoi pas transporter un produit par exemple d'Asie jusqu'en France? Ou alors est-ce que c'est à l'étape d'entretien, donc le lavage, séchage, repassage? Alors pour un petit vote à main levée, qui pense que c'est les matières premières qui sont les plus émettrices de CO2? Quelques personnes, je dirais une quinzaine, petite vingtaine peut-être. Qui pense que c'est l'étape plutôt du transport? Beaucoup plus nombreux, une bonne trentaine, soixantaine me dit Marion carrément. Et qui pense que c'est l'étape d'entretien? Un peu plus limité, je dirais un peu comme les matières premières. Ok, donc pas plus de suspense, c'est les matières premières. L'impact CO2, et je précise l'impact CO2 parce qu'il y en a beaucoup d'autres impacts. Hein. On a vu l'occupation des sols, la pollution de l'eau, etc. Mais sur l'impact CO2, ce sont bien les matières premières. Ça représente 38% de toutes les émissions CO2. En deuxième position, on a l'entretien. Donc ceux qui ont voté pour l'entretien, vous n'étiez pas loin derrière. En revanche, pour le transport, on peut être assez étonné. Il est tout en haut là dans mon graphique. Il représente que 3%, si je ne dis pas de bêtises, si j'arrive bien à lire mon graphique. Donc ça, c'est des chiffres de 2018. Donc voilà, en tout cas, à retenir que ici, c'est les matières sur le CO2, mais bien prendre en compte tous les impacts qu'on a sur le cycle de vie d'un produit. Alors pour les consommateurs, comment on fait pour simplifier toute cette information? Donc il y a en cours une expérimentation sur l'affichage environnemental qui consiste à donner une note de A à E sur les produits, les textiles et les chaussures pour pouvoir donner au final aux consommateurs une information qui est concise et qui est facilement accessible et pour aider les marques à éco-concevoir comment elles vont faire pour avoir un produit qui a une note de D pour essayer à le passer une note de C puis une note de B. Donc on a cette expérimentation qui est en cours en France qui a été lancée notamment par la loi AGEC qui est aussi une loi climat et résilience qui a été promulguée à l'été. Donc les initiatives s'accélèrent dans ce type de choses sur l'éco-conception et sur la communication de l'impact environnemental des produits. Donc c'est potentiellement quelque chose que vous pourrez voir et que vous pouvez déjà voir sur certaines marques qui le pratiquent déjà. Alors, fort de tout ça, comment on fait au final pour éco-concevoir un produit? Donc il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs niveaux. Alors je vous ai proposé un petit graphique. D'abord on aurait peut-être ce qu'on appelle de l'éco-reconception et puis après on pourrait parler d'éco-innovation. Donc l'efficacité environnementale derrière sera pas forcément la même. On a peut-être un premier niveau qui est d'agir sur les composants d'un produit. Donc peut-être au lieu d'utiliser du coton classique, on peut utiliser du coton recyclé. Le deuxième niveau, ça va être comment on peut jouer sur le design du produit. Donc, par exemple, pratiquer un patronage zéro déchet, comment on fait pour limiter les chutes de production quand on imagine un produit. Donc ça, ça a un impact derrière sur le design de son t-shirt ou de son jean qui n'aura pas la même forme. Après, on peut réfléchir à l'architecture du produit, sa fonction. Par exemple, on peut imaginer un produit qui est réversible. Si on a une doudoune réversible, et ben, elle va avoir plusieurs fonctions, on va pouvoir s'en servir plus longtemps. Ou alors des vêtements qui grandissent avec l'enfant. Vous avez peut-être vu ça passer. Évidemment, un vêtement qui sert plus longtemps, et ben, il sera plus tardivement un déchet, il se retrouvera plus tardivement sur un tapis de tri. Et peut-être le dernier niveau, c'est carrément de changer de modèle économique. Plutôt que de commercialiser un produit, on peut commercialiser un service. Et au lieu de vendre un t-shirt, eh ben, on peut peut-être préférer de le louer. Il y a cette initiative qui existe sur le jeans avec la marque Mud Jeans que vous connaissez peut-être. Et sur la chaussure aussi avec la marque Bocage qui loue des chaussures. Donc ça peut être des idées et des premiers niveaux d'éco-conception. Alors ça va être aussi une démarche de compromis. Parfois dans l'éco-conception, il faut faire des choix. Il y a plusieurs tactiques, stratégies possibles. Peut-être qu'on a envie de s'orienter vers une démarche de « je fais des produits qui vont durer le plus de temps possible » ou alors à l'inverse, j'ai envie de faire des produits qui demain vont être biodégradables ou alors j'ai envie de faire des produits qui sont recyclables. C'est pas mal de choisir son combat parce que parfois ces différentes stratégies, elles peuvent un peu s'opposer. Donc c'est bien d'avoir cette stratégie globale qui lead sa démarche éco-conception. Alors nous, à ReFashion, j'ai déjà dit, on en a deux qui nous tiennent à cœur, hein, c'est travailler sur la durabilité et la recyclabilité des produits. Sur la durabilité, ben, y a plusieurs pistes qui sont possibles. La première, et que je sois en phase avec, oui, ça va être de favoriser un design qui est plus intemporel. Alors évidemment, tous les intemporels, jeans, baskets, trench qu'on a tous dans nos garde-robes, et ben, c'est ceux qu'on va garder le plus longtemps dans nos placards. Alors il ne faut pas que ce soit un frein à la créativité, il y a beaucoup d'autres pistes hein, qu'on peut suivre en éco-conception. La deuxième, ça va être de travailler sur les exigences qualité de son produit. Si quand je conçois ma robe, par exemple, je fais en sorte qu'elle résiste plus longtemps dans sa solidité des teintures, qu'elle ne bouloche pas, qu'elle respecte toute une série de tests, si on travaille à augmenter ses exigences qualité, bah derrière, le produit sera plus durable. Après, on a la thématique de la réparabilité. Alors, si je conçois un produit qui sera plus facilement réparable parce qu'il aura des marges de couture pour être touché, ou si je le commercialise avec un kit de retouche, avec les bons accessoires pour venir retoucher son produit, eh ben, ça va pouvoir permettre au consommateur derrière de réparer son produit. Et puis le dernier, on en a parlé, hein, c'est pourquoi pas opter pour une économie plutôt de la fonctionnalité. Donc je fonctionnalise mon économie et au lieu de commercialiser un produit, je commercialise un service. Donc ça, ce serait par exemple pour la piste de l'allongement de la durée de vie. Mais il y a aussi la piste de la recyclabilité. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sur la recyclabilité d'un produit ? Puisqu'on va pouvoir réutiliser la matière d'un produit, le coton qui a fait un t-shirt, le polyester qui a fait une robe. Si on peut demain la réutiliser, et ben on pourra l'inclure dans de nouveaux projets. Et on a Paul-Emmanuel qui va en parler juste après. Mais donc, ça peut être intéressant de travailler sur cette recyclabilité. Pour ça, comment on fait ? Et ben, il faut limiter ce qu'on appelle les perturbateurs de recyclage pour pouvoir demain défibrer, broyer, effilocher une matière et pouvoir récupérer les fibres en elles-mêmes. Et si on limite les perturbateurs de recyclage, on fait en sorte de pouvoir récupérer plus facilement la matière première. Alors, ces fameux termes-là de perturbateurs recyclage, pardon pour le terme un peu barbare, mais pour vous expliquer concrètement ce que c'est et comment on peut faire, la première étape, ce serait de réfléchir à tous les composants d'un produit. Là, je vous ai mis, par exemple, une chemise. Je vais réfléchir à tous les accessoires, à la matière première. Est-ce que j'ai des boutons ? Est-ce que j'ai un zip ? Est-ce que j'ai une induction qui fait que mon produit il est imperméable, etc. Et de peut-être se lister tous ces produits. Alors, il y en a peut-être qu'on peut remplacer, qu'on peut supprimer s'ils ne sont pas forcément nécessaires. Il faut se dire que plus un produit sera minimaliste, plus il sera facile à recycler pour récupérer sa matière première. Une étape qu'on peut faire, c'est réfléchir à cette matière. Si on a un produit qui est 100% coton, qui est monomatière, ben, ce sera beaucoup plus facile à récupérer qu'un mélange polyester, acrylique, polyamide, mohair, etc. C'est très difficile de séparer les matières en fin de vie. Donc on va privilégier du monomatière. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est réduire les proportions d'élastane. Donc l'élastane, c'est la fibre qui donne des propriétés élastiques qui peut être très perturbante au moment où on veut effilocher et défibrer les matières pour pouvoir les réutiliser. Et puis, on peut limiter les finitions type induction qui donnent des finitions imperméables, par exemple, qui vont donner des impuretés, au final, à la matière recyclée. Et puis, on peut limiter ce qu'on appelle les points durs. Donc là, ça va être toutes les pièces métalliques, les boutons, les zips, les rivets par exemple sur les jeans, puisque ça va aussi créer des impuretés et pouvoir aussi dégrader le matériel de recyclage. Donc en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut faire dès le croquis d'un produit qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui demain permettront d'avoir des produits sur le marché qui sont plus facilement recyclables. Alors nous, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme EcoDesign sur laquelle il y a beaucoup de contenu pour aller se former, on va dire, à l'éco-conception. Qu'on va pas parcourir aujourd'hui, mais retenez l'URL et ça va être sur notre écosystème ReFashion. Donc allez y faire un tour, hein. C'est un outil qui est gratuit et qui est en open source, qui a pour objectif de sensibiliser et d'informer autour de l'éco-conception. Et aujourd'hui, on est content de vous en parler puisque vous êtes les futurs créateurs, vous êtes les futurs stylistes, modélistes, chefs de produits. Et si vous avez compris ces enjeux d'éco-conception pour produire plus durablement ou produire en vue d'une meilleure recyclabilité, demain vous serez carrément des éco-concepteurs. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. Et puis je vais terminer sur la présentation de notre challenge innovation. Donc c'est un appel à projet qu'on fait tous les ans, qui vise à soutenir des projets de R&D et d'innovation. Et cette année, en 2020, il y a eu 4 lauréats. Le premier, c'était un projet d'utiliser de la matière recyclée dans des murs végétaux. Il y en avait un second sur le démantèlement et le recyclage des chaussures. Il y en avait un autre sur comment on peut optimiser et automatiser le tri. Et puis, je vais finir par celui-ci, un projet sur le recyclage des vêtements de sport pour en faire des nouveaux accessoires de sport. Et donc là, on a un représentant aujourd'hui qui est Paul-Emmanuel Guinard de la société Nolt, qui a été lauréat du Challenge Innovation 2020, à qui je vais laisser la parole. Merci.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. On laissera un petit peu de temps aussi pour que vous posiez des questions. Et donc, Paul Guinard de la marque Nolt, tu as déjà été présenté, donc je te laisse la parole. Et en effet, la marque a reçu le prix du Challenge Innovation 2020.
Ouais, 2020. Bonjour à tous. Oui, en effet, on a participé au Challenge Innovation en 2020. La société a été créée depuis à peine un an. J'étais à votre place il n'y a pas très très longtemps. Je fais partie de ceux qui rêvaient de créer un projet éco-responsable dans le sport, vu que ça m'a toujours passionné. Et aussi ceux qui pensaient que c'était réservé, ce genre de challenge, aux grosses boîtes ou à celles qui avaient déjà prouvé que c'était possible. J'ai postulé à cet appel à projet en 2020 avec mon associé. On a monté ce projet d'équipementier circulaire et responsable. Le seul, en fait, qui conçoit des équipements à base de bouteilles en plastique avec du fil siquoil, donc des déchets plastiques récupérés en Méditerranée. On fait des maillots de sport, principalement, pour les équipes. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et on voulait absolument trouver une voie de sortie pour tout ce textile, en fait. Vous voir qu'un club utilise 200, 300 maillots de sport chaque saison. Et en fonction du changement de sponsor, de logo, les maillots sont aujourd'hui non valorisés. Il y a très peu de solutions. Nous, on sait que c'est du polyester en grande majorité. Il y a des perturbateurs, il y a de l'élastane, il y a du flocage. Donc ça, c'est la première difficulté. Mais c'est une vraie matière première parce que c'est du plastique, en fait. Donc en le broyant, en le travaillant, on peut refaire des pièces plastiques. On a présenté ce projet à ReFashion. Et c'était chouette parce que c'est les premiers à avoir cru au projet. Je crois que c'était à l'automne 2019 ou quelque chose comme ça. On vous a pitché le projet, c'était de vous dire, on prend un maillot, voilà, là, ce maillot-là, c'est un maillot de rugby 2XL, par exemple, et une fois qu'il est usé, après 2-3 saisons, on le transforme en petite coupelle extrêmement sexy, comme ça. Bon, alors là, comme ça, ça ne fait pas rêver, c'est une impression 3D. La coupelle finale est en production, les premières sortiront en 2022. Elles sortiront principalement, en fait, parce que ReFashion a cru au projet. En nous accompagnant sur ce projet-là, quasiment la moitié du financement est apporté par ReFashion. L'autre moitié du financement est apporté avec les clubs avec lesquels on travaille. On a à peu près une centaine de clubs aujourd'hui. On les équipe. La marge qu'on fait nous permet de développer ce projet-là. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est dedans. On a la tête dans le guidon. On est 4 à bosser dessus comme des fous. pour boucler la boucle. On est à 6 mois de réussir. En toute transparence, il y a des grands distributeurs qui ont embarqué sur la partie distribution de ces coupelles. C'est cool parce que, à vrai dire, je ne suis pas un distributeur de coupelles, donc je suis bien content qu'il y ait des gens qui croient au projet, qui vont m'aider à distribuer. Moi, ce qui m'excite, c'est de faire du textile, mais il me fallait une voie de sortie utile pour ces mêmes clubs, en fait. Donc là, j'ai un club, donc un client, qui achète du maillot, qui l'année prochaine achète des coupelles qui ont été conçues avec les maillots que les gamins ont donnés en début de saison. Donc il y a un vrai projet social et co-responsable. Nous, économiquement, ça fait du sens. On parlait tout à l'heure d'acheter la matière première, les déchets. Pareil, on ne l'achète pas. Mais aujourd'hui, on donne une petite carotte, c'est-à-dire qu'on donne une réduction sur les maillots s'ils me donnent leur vieux maillot. Honnêtement, aujourd'hui, les clubs qui travaillent avec nous sont des clubs qui veulent faire, qui veulent changer, donc ils seraient prêts à payer en fait pour le faire. Nous, on veut les féliciter et ça a commencé tout petit. On a signé 2-3 clubs et ça commence à venir et le monde du sport professionnel embarque. Je vous dis pas qu'on va équiper le PSG demain, hein, quand même. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des clubs de deuxième, troisième division qui commencent à embarquer. Et donc, c'est magnifique. Soit ils viennent pour le textile, soit ils viennent pour la coupelle, soit ils viennent pour les deux. Mais ils viennent pour quelque chose. Ils ont envie de changer. Il y a peu d'offres aujourd'hui, en fait. Il n'y a personne qui propose vraiment quelque chose comme ça. Alors que c'est pas fou, hein. L'idée, c'est de concevoir du textile avec du polyester recyclé et en faire quelque chose en fin de vie. C'est une idée. Et je pense que vous en avez beaucoup, beaucoup. Le projet qu'on a là avec le triathlon, c'est de stimuler plein d'idées comme ça. Juste pour vous dire que cette idée-là, ça peut être un business. Vous pouvez créer une boîte avec, vous pouvez la faire vivre en France. Enfin, c'est pas déconnant. Peut-être la seule limite de notre projet aujourd'hui, il y en a deux que je vois là comme ça qui me viennent. Ça va être sur ce projet-là. Tout le projet Coupelle est conçu en France. Donc les moules sont conçus en France. L'injection a lieu près de Saint-Étienne. On bosse avec un ingénieur qui a fait les fameuses raquettes de ping-pong qu'on envoyait dans la vidéo là. On a su s'entourer en fait, parce que moi mes connaissances sont limitées là-dessus. Hein. Je suis pas du tout ingénieur plastique ou j'ai pas beaucoup travaillé dans la mode. J'ai bossé pour Intersport, pour Salomon, donc c'est très limité. J'ai juste su m'entourer, ça c'est important. Savoir trouver les bonnes personnes à qui parler. Il faut fouiller les éco-organismes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment en France. Bon, ça commence, ça bouge quoi. Il se passe des choses, donc faut pas avoir peur d'aller frapper aux portes. Et la dernière partie, juste qui m'a beaucoup plu, c'est la partie fonctionnelle. C'est vraiment ce pourquoi on veut vraiment évoluer. Aujourd'hui, les maillots, on les vend. Les coupelles, on va les vendre via la distribution. Les maillots, on les vend en direct. Ça permet d'offrir de la matière recyclée au même prix sans prendre une marge distributeur qui nous empêcherait de le faire. D'où l'importance du D2C. Mais les coupelles, par exemple, qui est un produit basique, transférable, on veut vraiment les mettre en location. Donc il y aura une partie traditionnelle, distribution type Decathlon, Intersport, que vous connaissez tous. Et il y aura vraiment une partie en location, comme un parc automobile. Ça nous permettra de maîtriser notre matière, de la mettre en marché, de la récupérer. Ça permet aussi d'éviter à ce que le club allonge 200 ou 300 euros chaque saison pour acheter des coupelles. La matière est recyclée et recyclable. Donc même s'il me la pète, ma coupelle, je la récupère et j'en refais une. Donc voilà, la fonctionnalité, ce qui est chouette avec ça, c'est que économiquement, c'est très intéressant pour une marque. Écologiquement, c'est le futur, en fait. C'est le seul moyen de tracer sa matière. C'est le seul moyen de savoir où est la matière, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle revient. Sur les maillots, je ne le fais pas. On n'a pas trouvé le modèle économique. Si quelqu'un a une bonne idée, je prends. Le problème qu'on a sur le maillot, c'est que chaque maillot, vous voyez, là par exemple. Voilà, là, c'est bardé de sponsors. C'est bardé de logos et tout ça et tout ça. Donc en gros, moi, si le club de Saint-Louis-Nevègue dans l'Est de la France revient me voir et me dit, bah, Paul, tu peux récupérer mes maillots, m'en faire d'autres. Alors c'est jouable. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des contrats sur 2-3 saisons. Ils payent annuellement des contrats et on récupère et on remet. Donc ça, c'est les clubs structurés. Donc dans les grosses structures, au moins les 5 premiers niveaux du championnat national. En dessous, c'est vraiment à l'opportunisme. Ils ont 5 ou 6 marques différentes qui viennent toquer à la porte pour faire un contrat, pour vendre 15, 20, 30 maillots. C'est très dur de mettre en place des systèmes pérennes sur le long terme parce que tout va dépendre de la mairie. Il y a beaucoup d'argent public qui rentre en jeu. Il y a le président qui rentre en jeu. Je ne veux pas vous faire la sauce, mais la fonctionnalité, je pense que c'est le futur. On est sur un modèle, le sport amateur, qui est un petit peu à l'ancienne. Donc il y a beaucoup de travail pour faire comprendre qu'il y a plein de choses qui se passent et que ce n'est pas parce que le maillot n'est pas très cher qu'il ne peut pas être éco-responsable. le sport amateur a été tiré vers le bas parce que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que le maillot coûte 15 euros. Il faut qu'il soit fait au Bangladesh parce que c'est comme ça. On accepte un peu en B2C à mettre un peu d'argent. On l'accepte. Mais on n'accepte pas pour nos gamins qui vont jouer au foot deux fois par semaine mettre un maillot un peu plus cher. Alors nous, on a trouvé un modèle qui nous permet d'être compétitif avec le Bangladesh parce qu'on est en direct, parce que mon atelier, il est au Portugal, faut dire les choses comme elles sont. Mon tri textile, je le fais à Vitrolles, mais j'ai mon modèle européen. C'est ce qui me permet aujourd'hui de rentrer sur un marché tiré par le bas. J'espère honnêtement être le premier et qu'il y en a plein qui vont embarquer et qui vont permettre à ce marché juste de trouver le prix juste. Je ne dis pas de vendre le maillot 45 euros, mais juste de trouver le prix juste quand on voit qu'un maillot du PSG est vendu 140 euros en boutique, en B2C, alors qu'un club amateur achète ses maillots 20 euros, il y a un petit décalage, quoi. Aujourd'hui, les pratiquants de sport, ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, c'est les sportifs amateurs. Les sportifs professionnels, c'est la vitrine. Ceux qui ont un vrai impact pour le coût écologique, clairement, ce sont les millions de pratiquants de sport en France. Il y a 2 millions de licenciés rien que dans le football en France. Vous imaginez la quantité de maillots chaque année qui sont changés, qui sont balancés, qui sont brûlés. Alors, Refashion, le centre de tri avec lequel on bosse énormément là-dessus. Problème, c'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'élastane. C'est du polyester, ce n'est pas une matière noble, donc c'est extrêmement dur à revaloriser. Nous, on part sur la coupelle, c'est une idée cool. Ça serait bien qu'il y en ait plus, en fait. Le polyester, c'est un vrai problème. C'est une matière très cool pour faire du sport. Je suis sportif, j'adore porter du polyester. Le problème du polyester, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques de mode mettent du polyester. Avant, le ratio polyester et, matière plus noble, c'était 55-45. Aujourd'hui, ça s'inverse. Et le problème, c'est que le polyester, on a peu de voies de sortie. Donc, il faut... Moi, ça me fait plaisir de faire ça. On va faire autre chose. Je pense qu'on va faire des crampons de foot, d'autres trucs qui vont faire kiffer les gens. Et je pense que vous avez plein d'idées pour faire d'autres produits. Et je pense qu'il faut continuer. Nous, c'est le début. Ça fait 2 ans... On s'amuse à faire ça, on va continuer à le faire. On a la chance d'avoir Refashion dans la boucle. Ils ont une expertise qu'on n'a pas. Et voilà. Et en tout cas, voilà, je peux juste vous dire, allez-y, regardez ce qu'ils font. C'est riche. Moi, j'ai appris énormément sur le site. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et encore, j'ai encore vu des trucs que je ne connaissais pas. Là. Donc, ouais, voilà. Ben, merci.
Merci à toi et bravo donc pour cette marque, ce nouveau projet. On a du temps pour des questions à Refashion ou à la marque Nolt. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais peut-être me lancer. J'en ai peut-être deux, une pour chacun d'entre vous. Comme ça, vous réfléchissez à vos questions. La première s'adresse à Refashion. Vous avez évoqué la question cruciale du modèle économique. Et je ne sais pas si vous étiez là ce matin. Donc je suis déléguée générale d'une ONG qui s'appelle le Collectif Éthique sur l'étiquette. Et donc on défend les droits des travailleurs du textile à l'international. Et on a d'ailleurs parmi nos membres deux fédérations sportives affinitaires qui sont la FSGT et l'UFOLEP. Et je me demandais si vous étiez en contact avec ce type de fédérations. Ce sont des fédérations sportives qui ont une mission d'éducation populaire et qui cherchent notamment, pendant longtemps, ils nous ont dit, mais nous, pour équiper nos clubs, on adorait avoir des ballons, ce type de maillot. Donc je me dis que bon, ça ne doit pas ne passer que par ces fédérations, mais voilà. Ça, c'était une question à toi. Et au niveau de Refashion, la question qui nous préoccupe beaucoup, tous ici, même avec Ethical Fashion Show, c'est aussi la question du modèle économique dans sa production en masse. Et autant on voit effectivement beaucoup d'évolutions sur la conception, l'éco-conception. Et je me demandais si parmi vos membres, vous voyez aussi une évolution sur... la question de la production en volume, notamment du côté des enseignes de fast fashion, est-ce que c'est quelque chose aussi qui commence à évoluer? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà du recyclage, nous avons des innovations fantastiques qui sont créées tant qu'on aura encore des millions et des millions de pièces qu'on ne porte pas, qu'on est dans une telle surproduction, le recyclage n'est qu'une, est presque une idée pas suffisante, en tout cas, si, parce qu'on n'a pas les moyens, la matière, et voilà, je demandais si, enfin, les moyens de recycler assez, et je demandais si parmi vos membres, il y avait aussi une réflexion sur la production en volume aujourd'hui. Voilà.
Effectivement, alors, Parmi nos membres, il faut comprendre qu'on représente ReFashion dans nos adhérents, du coup, toutes les marques metteurs en marché de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures qui mettent en marché en France. Et dans les DOM aussi. Donc ça peut être des marques qui sont étrangères mais qui mettent en marché en France, des marques qui sont françaises et qui mettent en marché en France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un panel d'adhérents qui est assez énorme, qui passe par les marques que vous voyez tous dans les centres commerciaux, dans les centres-villes, mais aussi des marques qui distribuent sur Internet seulement, des plus petites qui viennent de se créer, d'autres qui ont déjà des années et des années de présence sur le marché, certaines pour lesquelles l'éco-conception est au cœur de leur création, c'est leur ADN, d'autres qui se lancent au fur et à mesure et qui prennent le wagon en cours de route par choix, par urgence climatique, ou d'autres qui sont comment dire, drivés par les lois qui sortent, on en a déjà parlé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans nos adhérents, on a un panel qui est tellement large qu'on va représenter beaucoup de business models qui sont différents et beaucoup de metteurs en marché différents. Donc parmi eux, on a une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle la marque Loom, qui travaille beaucoup sur la réduction. Sur le produire. Alors il me semble que son slogan c'est produire moins mais mieux, et donc et forcément elle fait partie de nos adhérents, puisqu'elle fait partie d'une marque qui met sur le marché des textiles et des chaussures. Donc elle travaille beaucoup sur cette réduction, et on a aussi du coup des acteurs on va dire plus importants sur le marché français qui commencent aussi à travailler sur cette réduction des volumes, pour lesquels ça représente un changement qui est énorme. On est bien d'accord, on passe d'une frénésie de la consommation à essayer d'aller vers une économie plus circulaire, éco-conception et le réduire. Donc j'ai envie de dire que le changement est en cours et que aujourd'hui dans nos membres, on représente beaucoup de personnes qui sont à des stades assez différents de leur changement en vue d'améliorer leur mise en marché d'un point de vue environnemental.
Et donc moi, c'est la fédération.
Bah, oui, il y avait la question de ces fédérations un peu engagées et justement qui cherchaient aussi d'une façon de mieux équiper leur club. Et puis plus largement, voilà, est-ce qu'on peut espérer que des grosses fédérations qui sont engagées dans des démarches responsables, on avait ce matin la fédération du triathlon, par exemple Île-de-France, qui a eu qui est très engagée, qui a parlé de RSE, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a des ouvertures aussi du côté des gros acteurs?
Si, ça bouge quand même. On a parlé avec beaucoup de fédérations, on a parlé avec les Jeux Olympiques aussi. Il y a une vraie volonté de faire. Après, il y a des. C'était justement le président de la fédération de triathlon qui parlait de ça tout à l'heure, qui parlait de la RSE, qui mettait la variable économique au centre. C'est marrant parce qu'on a parlé beaucoup de fédérations et c'est souvent ça qui ressort. Les fameux contrats équipementiers, il y a une volonté de faire, mais il y a aussi une vérité. C'est-à-dire qu'ils ont des contrats sur plusieurs saisons qui sont très très importants pour leurs athlètes et pour leur fonctionnement. Donc sur ce modèle-là, donc un modèle traditionnel, c'est très compliqué de changer les choses. Comme avec des clubs professionnels, c'est un club professionnel, c'est exactement le même fonctionnement qu'une grosse fédération en fait. On arrive avec une idée. Prenons l'exemple du RC Toulon, par exemple, un gros club de rugby, donc l'un des plus gros clubs au monde, en fait. Et donc, ils ont un contrat avec Nike, tout récent, là. Et ils ont réussi tout de même, parce qu'ils ont une volonté éco-responsable extrêmement forte, une vraie dynamique. Ils ont réussi, dans le contrat avec Nike, à avoir ce champ de liberté de travailler avec d'autres acteurs pour faire autre chose. Donc, on a mis une borne de collecte textile dans les boutiques du club. On collecte, du coup, le vieux textile des fans qui viennent au match. On fait des coupelles et les coupelles sont après données à des clubs périphériques qui sont partenaires. On a fait un polo en coton bio. Il y a une volonté de faire, mais ça reste toujours pour l'instant, il faut dire les choses comme elles sont, hein, ça reste pas nébuleux, mais c'est plein de petits projets. En gros, c'est un chemin de traverse, quoi. On frappe aux portes, on pose la question, est-ce qu'on peut faire un truc? Et on construit un projet sur mesure. Nous, on trouve ça cool parce que ça bouge. Mais j'ai le sentiment que là, pour l'instant, on est les pionniers du truc, quoi. Ça bouge quand même. Mais de là à signer un jour une grosse fédération sur un projet comme ça, ça coûte beaucoup d'argent, en fait. Le modèle économique ne nous permet pas de rentrer. Voilà.
Mais des petits ruisseaux naissent les grandes rivières. Donc, bravo. Alors, le floor est ouvert. Est-ce que vous avez des questions de votre côté à une ou l'autre de nos interlocuteurs et trices ? Alors, j'ai une question dans le fond. Je vais te monter un micro, Abdelaïza. Tout au fond, en haut à gauche. Est-ce qu'il y en avait d'autres ensuite ? Vous réfléchissez pendant ce temps-là ici. Okay.
Bonjour. J'ai une question pour Paul-Emmanuel, du coup. Vu que vous parliez de quantité tout à l'heure, je me demandais, vous fabriquez à peu près combien de maillots par an ? Est-ce que vous arrivez déjà à vivre de ça correctement ? Et comment vous envisagez le futur de votre entreprise ? Est-ce que vous voulez rester à une petite échelle ou envisager plus grand ?
Ça fait trois questions, ça. Alors, on en vit depuis peu, depuis septembre. Je me suis versé mon premier salaire en septembre, donc ça fait un an et demi. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est pas la grande richesse, hein, faut pas rêver, hein, mais on en vit. On a deux salariés maintenant, donc la société se structure. On a un designer en interne et on a un commercial en interne. Donc ça, c'est le premier point, c'est important, c'est pour vous faire comprendre que... c'est pas parce que c'est de l'économie circulaire, c'est pas parce que c'est une autre façon de voir le textile que c'est plus compliqué, moins compliqué. Enfin, c'est pareil, quoi. Tu montes ta marque, ta boîte, tu sais que t'en as pour 18 mois à charbonner avant de réussir à faire un truc. Si tu fais les choses bien, ça prend 18 mois. Est-ce que vraiment ça se structure ? Le deuxième point, on veut pas en faire une marque, comment dire, une petite marque sur le côté. On veut vraiment jouer la carte. On m'entend encore ? Ouais. Ouais. On veut vraiment jouer la carte de l'équipementier de sport. J'ai pas peur de dire que je veux m'attaquer au même club que Kappa, Macron, Nike. J'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il y a la place pour, il y a la volonté des clubs. Aujourd'hui, on reprend des clubs à Nike, évidemment des petits clubs. Mais c'est la preuve que le matos est bien, le discours est entendu et le prix est bon. Donc non, on veut faire une marque européenne. On ne veut pas faire une marque mondiale pour une raison extrêmement pragmatique. On est sur un modèle circulaire. Où est-ce que je récupère la matière, je la trie, je la retransforme en matière. J'envisage pas de le faire à travers les océans ou à travers... L'idée, c'est quand même de limiter le transport, même si le coût l'impact transport est maîtrisé. On l'envisage pas du tout comme une marque autre qu'une marque européenne, mais on l'envisage vraiment comme une marque qui va se développer. C'est déjà le cas. Voilà. Il y avait autre chose, non ? J'ai tout dit, hein ? Oui, ça va ? C'est bien ? Ouais. Voilà.
Merci. Il y avait une question au milieu. Est-ce qu'on peut faire redescendre le micro ? Oui, si tu parles bien fort.
Merci. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors, d'abord peut-être sur la question des procédés. Si on prend par exemple l'exemple de l'isolant qu'on a vu et qu'on retient assez facilement, souvent c'est un matériau qui est réalisé à la base de jean recyclé, de jean usagé qui est transformé en isolant, qu'on va d'abord retirer ce qu'on appelle les fameux points durs, d'où l'importance de la session d'avant, de dire s'il y a des boutons, s'il y a des zips, s'il y a des rivets, etc. Alors, il ne faut pas dégrader la fonction d'un jean, mais l'idée, c'est de pouvoir essayer de limiter ce qui n'est pas forcément nécessaire. Donc d'abord, on va commencer par retirer toute cette partie. Ensuite, on va récupérer donc, la matière première du jean, donc, qui est majoritairement du coton, et on va la défibrer et filocher, en fait, revenir à l'état de fibre, à l'état d'une matière en fait, fibreuse, d'une bourre de fibre, pour pouvoir en faire ce qu'on appelle un non-tissé. Donc un non-tissé, c'est un matelas, un petit matelas de fibres dont les fibres sont réparties un peu de manière aléatoire et qui sont fixées souvent par soit un processus de ce qu'on appelle d'aiguillage, donc c'est des aiguilles qui viennent piquer et qui viennent lier la matière, soit via un processus de chauffe en fait, qui vient fixer la matière. Donc en fait, ça forme un non-tissé qui ressemble à de la laine de verre, qui est un isolant classique. Et qui là en fait est un non-tissé à base de jean recyclé. Donc ça c'est plus pour la partie procédé. Donc du coup en fait la question sur quel est l'impact on va dire du recyclage, et là c'est on prend l'exemple de l'isolant qui est en fait un procédé du coup qui est mécanique. En fait on va venir séparer les fibres pour en refaire une matière qui est du non-tissé. Donc c'est un procédé qui est mécanique, qui est assez peu polluant, mais évidemment tout un tout a un impact sur l'environnement. Enfin, il faut pas s'imaginer que recréer un isolant, c'est tout bon. Et on est neutre en termes d'environnement. Il y a une usine qui tourne derrière. Il y a des hommes qui travaillent. Enfin, donc forcément, tout ça, ça a un impact. Peut-être que un procédé de recyclage qui serait mécanique serait assez peu impactant par rapport à un procédé de recyclage où on va avoir des intrants chimiques, où on va refondre de la matière qui va nécessiter beaucoup plus de chauffe et du coup d'émissions de CO2, etc. Donc tout ça, évidemment, il faut le prendre en compte de manière globale. Quand on dit qu'il faut mesurer, quand on fait de l'éco-conception sur tout le cycle de vie d'un produit, ça veut dire qu'il faut aussi mesurer l'impact environnemental qu'on a quand on recycle une matière première. Et donc, on vous a présenté une slide là sur l'affichage environnemental qui consiste à donner une note de A à E sur un produit. Et cette note de A à E, elle prend aussi en compte l'impact sur l'environnement que crée le processus de recyclage ou que crée, par exemple, de transporter son produit qui est réutilisé, pour la première fois en France, puis qui est réutilisé demain en Asie, en Italie. Tout ça, cette matière, il faut la transporter. Donc, en fait, on vient vraiment regarder tout le cycle de vie d'un produit. Donc, aujourd'hui, on peut mesurer cet impact sur l'environnement aussi du recyclage et pas que de la première vie du produit.
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ou deux dernières ? Oui. Alors, de ce côté-là, est-ce qu'Isabelle est là avec le micro ? Alors. Tiens. Ah ben, on va être un peu embêtés. Bon, tu voudras bien leur rendre après le micro.
Donc, merci pour vos présentations. Et donc, c'est en rapport avec les conflits de valeurs qu'il peut y avoir entre un modèle d'affaires basé sur le volume et les concepts de développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que, par exemple, la location, qui sont d'autres innovations comme la location qui sont mises en place pour justement essayer de changer un peu ce modèle qui est généralisé.
Ah, merci beaucoup pour la question. effectivement, le modèle de la location, c'est celui qui parle le plus. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Enfin, le bel exemple qu'on a, ça va être... En fait, disons que la location, c'est un modèle qui permet de maîtriser son gisement. C'est-à-dire qu'en fait, on est propriétaire de son produit et de la matière première sur tout le cycle de vie du produit. C'est-à-dire que quand on commercialise, eh ben, on sait où est mon pull, où est mon jean ou mon t-shirt de sport, par exemple. Et demain, ça veut dire qu'on est capable de le récupérer. On est capable, du coup, de maîtriser ses déchets et de trouver derrière des exutoires pour les valoriser. Donc, il est là aussi l'intérêt de la location, plutôt que de laisser des produits pas dans la nature, ce serait pas vraiment le bon terme, mais qu'on ne maîtrise pas et qui demain le consommateur s'il respecte pas des gestes de tri comme nous on le propose, et ben on sait pas forcément ce que va devenir son produit. Donc là il est là l'intérêt de la location, mais du coup il y a d'autres initiatives qui se créent, alors qui sont pas exactement comme de la location, mais qui consistent en fait à maîtriser son gisement et à être maître de sa matière sur tout le cycle de vie. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se créent de je commercialise mon produit et je propose demain une collecte. Alors, soit via un système de colis, d'enveloppes pré-timbrées, ou alors via un système de collecte en magasin. Où en fait, demain, le consommateur, quand le produit est usagé, eh ben, soit il rapporte en magasin, soit il le renvoie par la poste, etc. Et du coup, la matière revient à la personne qui l'a mis en marché et est libre derrière de pouvoir trouver un certain nombre d'exutoires, que ce soit sur de la réutilisation ou du recyclage. On a par exemple l'entreprise Salomon qui a fait il n'y a pas longtemps une chaussure qui s'appelle l'Index, qui est à base de matière recyclée et qui est recyclable, donc qui demande au consommateur de s'enregistrer sur un site internet pour pouvoir récupérer la chaussure quand elle est usagée. Et derrière, ils ont créé des circuits de valorisation, notamment il y en a un en Europe pour valoriser cette basket de running en de la matière qui sera réinjectée dans des chaussures de ski. Donc en fait, le modèle économique intéressant là-dedans, c'est qu'on est maître de sa matière et on est capable de maîtriser demain ce qu'elle deviendra.
Je voudrais juste rajouter, il y a en amont aussi quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est produire à la commande. Je pense qu'on est de plus en plus habitué à voir ça quand même. Il y a des marques qui sont très très très, très costaud maintenant, comme Asphalte notamment, qui fait ça assez bien. C'est de la précommande, quoi. Alors, de l'envisager, la précommande, sur la fast fashion type H&M, ça me paraît compliqué. Mais au demeurant, ça vient de plus en plus. Nous, dans le sport, par exemple, on est la seule marque à travailler à pareil à la commande. Donc, on travaille sans stock. On prend les commandes, 4 semaines après, on livre les clubs à la pièce près. Ça nous complique un peu la vie. Mais on a, mis à part nos déchets, nos chutes, on n'a pas de déchets. Bon, et après, l'avantage, c'est que c'est du polyester, donc je peux en faire des coupelles de mes déchets, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que, il y a aussi la consigne qui se développe de plus en plus. Mais ça, c'est à double tranchant, la consigne, c'est une très belle histoire. Ça marchait très bien à l'époque pour les bouteilles en verre. Je suis personnellement partagé pour le textile, parce que ça demande souvent aux consommateurs de payer 10 ou 15 euros de plus pour hypothétiquement ramener son jean. Je trouve que l'idée est très chouette. Dans les faits, dans le pratico-pratique, je ne suis pas sûr du truc, quoi. Personnellement, je pense toujours à ça. Est-ce que moi je le ferais? Est-ce que je paierais 15 euros de plus pour ramener mon jean alors que mon jean je l'ai acheté, je l'adore, quoi. Je pense pas tout de suite à le ramener. Voilà, donc ça c'est. Mais il y a plein de choses qui se font. Moi je le vois, je pense que toi tu le vois parce qu'on voit des trucs passer et voilà, il y a plein de trucs qui se bougent quand même.
Merci beaucoup pour cet échange riche. Merci pour vos questions. Et puis, Isabelle, tu vas venir présenter quand même le concours. On va peut-être déborder de 5 minutes, mais pour que vous puissiez avoir une idée assez claire de ce en quoi consiste le concours. Donc, vous pouvez rester là ou retourner comme vous êtes le plus tranquille. Vous voulez vous retourner là-bas. Merci beaucoup.